Eh bien bonjour à tous et meilleurs vœux en ces débuts d'année, meilleurs vœux à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode du Forum des Sports. C'est toujours Arnaud avec Baptiste, salut Baptiste.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous et à toutes, meilleurs vœux à tout le monde.
Eh bien au menu de cet épisode, je vais me charger de vous faire la présentation. On va commencer par parler de la saison du vélo. L'année cycliste 2024, c'est Baptiste qui vous en parlera. Je me chargerai ensuite de vous parler du Dakar, voilà, le lancement de l'épreuve, les premiers moments marquants de ce Dakar qui n'est pas terminé, qui se terminera le 19 janvier. Ensuite, on fera un petit point sur le mercato foot et surtout, on vous livrera nos coups de cœur et nos coups de gueule sur les 5 grands championnats de ce début de saison. Et enfin, ça va devenir une habitude, Baptiste terminera par le récap palois. Alors Baptiste, je vais te laisser commencer sur le vélo.
Alors ça y est Arnaud, oui, nous y voilà. Le 16 janvier, certains coureurs vont épingler à nouveau leur dossard en disputant le Tour Down Under, ce qui correspond vulgairement au Tour d'Australie. Chaque année, c'est cette course au bout du monde qui donne le coup d'envoi de la saison cycliste. Cette dernière s'annonce toujours aussi palpitante pour les fans de cyclisme. Ces derniers s'impatientent de revoir des batailles sur les pavés ou dans les plus grands cols. Les aficionados de la petite reine se contentent, durant l'intersaison sur route, de voir Mathieu Van Der Poel écraser la saison de cyclocross devant son éternel rival Wout Van Aert ou Thomas Pidcock. Le petit-fils de Raymond Poulidor fonce vers son 6e titre mondial dans la discipline hivernale. Lors des traditionnels stages en Espagne des équipes pour le Tour à la mi-décembre, les directeurs sportifs de chaque équipe annoncent les objectifs des coureurs vedettes d'un peloton de plus en plus jeune. Les autres équipes attendent début janvier. À l'heure où je vous parle, la plupart des équipes ont annoncé le calendrier de tous les leaders.
Et pour l'instant, il me semble que le début de saison, c'est surtout le synonyme des classiques, non ?
Oui, premier grand rendez-vous de la saison cycliste, les redoutables classiques. Il y en a 5. Ce sont des courses d'un jour où le vainqueur devra être dans une très grande forme, mais aussi ne devra pas jouer de malchance s'il veut l'emporter. Première rencontre entre Classic Men lors de Milan-San Remo avec toutes les têtes d'affiche du peloton comme Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel ou Mats Pedersen. Tout le monde sera là. On enchaînera avec les Flandriennes, Gent-Wevelgem, à travers la Flandre ou encore le GPE3 serviront de course de préparation à Paris-Roubaix et autour des Flandres. Qui franchira en premier la ligne d'arrivée sur le mythique Vélodrome de Roubaix ? Qui domptera le vieux Courmont ou le Koppenberg ? Qui succédera aux deux gloutons du cyclisme bonnaire que sont Mathieu Van Der Poel et Pogacar ? Ce dernier, le Slovène, donc Tadej Pogacar, a fait l'impasse sur les Flandriennes cette année pour se concentrer sur les Ardennaises, avec pour but d'inscrire à nouveau son nom au palmarès de Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques, et mettre fin aux deux succès consécutifs du Belge Remco Evenepoel. Côté français, Julien Alaphilippe a annoncé qu'il serait au top de sa forme pour venir agrandir son palmarès. Une course comme Liège-Bastogne-Liège correspond bien à ses qualités. On a tous en mémoire son punch qui a fait des ravages dans les années précédentes.
Et on enchaînera vite avec les courses à étapes, non ? On a déjà les premiers calendriers, des coureurs et tout.
Ouais, la saison se poursuivra avec les courses à étapes World Tour d'une semaine avec Paris-Nice ou Tirreno-Adriatico. Mais si tu le veux bien, si vous le voulez bien, Arnaud, faisons un saut dans le temps et dans l'espace. Nous voilà le 4 mai à Venaria Reale, je ne sais pas si je le prononce bien, dans le Piémont, non loin de Turin, pour le départ du Giro 2024. C'est une course qui se terminera à Rome le 26 mai. Les coureurs devront faire face à des noms connus comme le Jean du Stelvio, au lendemain d'une arrivée mythique à Livigno. La lutte pour le maillot rose fera rage entre Pogacar, Yush Dobroks ou Geraint Thomas. On aura droit à un parcours fidèle à sa réputation, rude, montagneux, et la météo pourrait jouer un mauvais tour à certains. Le Tour de Suisse et le Critérium du Dauphiné seront une grande répétition générale de ce qui va nous attendre cet été sur le Tour de France. Nous revoilà en Italie, à Florence, le 29 juin, pour le départ de ce qui est la plus belle course au monde, le Tour de France. Un menu XXL pour un plateau qui l'est tout autant. Une étape accidentée dès le début qui arrive à Rimini pour rendre hommage à Marco Pantani dit le pirate. Une étape de montagne dès le 4e jour avec l'ascension du Galibier et la montée de Sestrière. Puis cap vers le nord-ouest avec une étape inédite autour de Troyes avec l'apparition des chemins de terre et une arrivée à Colombey les deux églises où il y a le général de Gaulle qui est enterré.
Ah, je pensais pas entendre parler du général de Gaulle.
Bah, tu veux l'histoire, Arnaud ? La première de journée de repos aura lieu à Orléans, ville où les Anglais ont été repoussés par Jeanne d'Arc pendant la guerre de Cent Ans. Mais bon, fini parler d'histoire, revenons sur le vélo. Retour dans le massif central qui sera visité. Le Lioran sera le terme d'une étape accidentée. Un traditionnel passage à Pau qui sera la porte d'entrée dans les Pyrénées avec deux arrivées en altitude, le plat d'Adé et le plateau de Bay le lendemain, le jour de la fête nationale française, le 14 juillet donc. Encore de l'histoire. Gruissant sera le théâtre de la seconde journée de repos, mais pas le temps de bronzer pour les coureurs qui prendront le lendemain la direction du sud-ouest de la France vers la Côte d'Azur. Les cinq dernières étapes seront dantesques pour les rescapés du mois de juillet, trois étapes de montagne avec deux arrivées en altitude, au col de la Couillole et à Isola 2000, une étape accidentée à Barcelonnette et en contre-la-montre finale entre Monaco et Nice qui viendra conclure le 21 juillet, un Tour de France plus excitant que jamais. Je vous rappelle, bon, c'est un mauvais souvenir pour nous Français, que la dernière fois que le Tour de France s'est conclu par un contre-la-montre, c'était en 1989, et c'est le maillot jaune de l'époque, Laurent Fignon, qui a perdu le Tour de France pour 8 petites secondes au profit de l'Américain Greg LeMond. Alors cette année, pas de Champs-Élysées pour célébrer le maillot jaune, qui un maillot jaune qui aura parcouru 3492 km, mais ce sera la promenade des Anglais à Nice, donc.
Et c'est un parcours splendide que tu nous as présenté, mais il n'en serait rien sans les cyclistes eux-mêmes, qui sont les acteurs de la course. Quels sont les coureurs qui feront la course cette année? Ouais, c'est quoi le plateau cette année? On a envie de savoir.
Alors Arnaud, c'est un très grand plateau. Tous les cadors du vélo mondial, tous les meilleurs grimpeurs du monde seront là. Pogacar qui doublera le Giro et le Tour de France, Vingegaard, Roglic et Tao Gegenhardt, ce sont deux transfuges cet hiver qui ils ont rejoint des équipes pour pouvoir jouer le classement général sur le Tour de France. On y retrouvera le Belge Remco Evenepoel, Carlos Rodriguez, Egan Bernal, Simon Yates, Hendrik Maas ou Richard Carapaz encore. Bref, ça va être du sport. J'aurais pu vous citer aussi les Français comme Gaudu, Martin ou Bardet qui voudront forcément briller sur la route, mais je soulève une question, je me pose souvent cette question. Pourquoi s'entêter à vouloir faire de la figuration? Un top 10, c'est déjà très bien sur le Tour de France, alors qu'un podium sur les autres grands tours, le Giro ou la Vuelta, serait plus dans leur code et il y aurait moins de concurrence. Bref, la bagarre sera intense entre les Armadas d'UAE et de Visma. Alors, je parle d'Armada parce qu'ils ont dans leur rang la plupart des meilleurs coéquipiers du monde, notamment les meilleurs grimpeurs. Une édition historique en perspective, que ce soit en termes de parcours ou en termes de plateau.
Bah, c'est tant bien que tu en aies parlé, parce que j'ai une petite surprise pour toi, Baptiste. Alors, on l'a pas préparé, je t'ai demandé ton avis en direct, mais j'ai vu passer ce matin un petit débat qui disait que pour le grand public français, celui qui n'est pas amateur réellement de vélo sur les courses, c'était plus marquant de voir Gaudu sur les routes du Tour de France à jouer la tête de plateau plutôt qu'un podium sur le Giro ou la Vuelta qui, en fin de compte, est suivi que par les amateurs de cyclisme. Donc toi, t'en penses quoi de la vision du grand public?
Ben, je vais te répondre donc, mais je pense que moi, les Français sont avant tout fans du Tour de France que des vrais fans de vélo, comme on peut le voir en Belgique notamment, où c'est vraiment le vélo, c'est vraiment une religion. Alors bien sûr, faire un top 10 sur le Tour de France, c'est pas donné à tout le monde, mais je veux dire, quand t'en as déjà fait plusieurs des top 10, jouer le podium, faire un podium sur un autre grand tour, c'est quand même assez aussi prestigieux, même tu peux jouer la victoire en fonction des différents scénarios de course. Bon, c'est leur choix, je peux comprendre aussi qu'en étant leader, t'as envie d'être sur le Tour de France, à la maison. Alors il y a plus de pression, certes, mais bon, on verra bien cet été. Hein.
Bon, merci Baptiste pour la réponse. Et on va enchaîner avec les championnats olympiques, puisque cette année il y a les Jeux olympiques. Qui succédera à Primož Roglič? Oula, excuse-moi.
Ouais, tu l'as dit, donc 2024, c'est une année olympique, à la maison, encore, à Paris. Donc un titre sera décerné le 3 août sur un parcours accidenté autour de Paris et sur Paris, avec comme juge de paix la butte Montmartre. Bon, après ces Jeux olympiques, il y aura le dernier grand tour de l'année, c'est la Vuelta. Un départ à Lisbonne le 17 août pour une arrivée à Madrid le 8 septembre avec un parcours sinueux, fidèle à sa réputation lui aussi, avec des arrivées mythiques au Lagos de Covadonga ou au Picón Blanco. comme le Tour de France, on aura un contre-la-montre pour terminer le dernier jour donc à Madrid. Pour l'instant, en termes de participation, on ne nous a pas trop d'informations. On sait que Vingegaard, le tenant du titre du Tour de France, va participer. Donc, il va doubler Tour de France et Vuelta. Et qu'il y a le Français, Lenny Martinez, l'une des pépites du cyclisme français, qui va participer pour la seconde fois d'affilée à la Vuelta. Je vous rappelle qu'il a porté le maillot de leader pendant quelques jours l'an dernier. Et enfin, pour terminer, ça sera la classique des feuilles mortes, le Tour de Lombardie, la dernière classique de l'année qui viendra mettre un terme à une saison cycliste qui sera à coup sûr, et je vous le garantis, bien plus palpitante que les années précédentes.
Mais merci Baptiste, là on est chaud pour l'année cycliste. Moi je vais vous parler du Dakar, alors on change de roue, on passait du deux roues, là on passe aux deux roues aussi, mais motorisées, aux quatre roues motorisées. Pas sur des routes, mais dans du sable, sur des cailloux, le Dakar. Alors le Dakar, depuis quelques années, on le rappelle, qui se joue en Arabie Saoudite. Cette année, on a eu le départ le 5 janvier. Avec, pour l'instant, bon, sur les premières courses, on a pas mal vu les Français. On a vu notamment le 7 janvier, pour la deuxième étape, la victoire de Stéphane Peterhansel, Monsieur Dakar.
Monsieur Dakar, oui.
Ouais, Monsieur Dakar, Stéphane Peterhansel. Qui a signé sa 50e victoire sur le Dakar. 50 victoires des deux 2000. Première victoire en année 2000. Et aujourd'hui, il accumule la 50e en 2024. Ça fait plaisir de le voir revoir au sommet, de le voir égaler le record de Harri Vatanen. Il aura la fin du Dakar pour peut-être gagner une 51e victoire. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Et ça fait plaisir de voir Stéphane Peterhansel sur le sommet du podium, après son abandon l'an passé, on le rappelle, il était chuté dans les dunes et il s'était blessé. Deux jours plus tard, le drapeau français a encore rayonné en Arabie Saoudite avec la victoire de Sébastien Loeb le 9 janvier, avec une minute d'avance sur le deuxième. Il nous avait fait une véritable leçon ce jour-là. Alors le Dakar se joue jusqu'au 19 janvier, n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça se passe sur l'équipe. Et tous les jours, il y aura des petits résumés sur le site de l'équipe aussi. Ça vaut vraiment le détour, rien que pour les images, sur les cailloux, dans les dunes. C'est toujours un régal, ce Dakar.
Arnaud, qu'est-ce que tu en penses, toi, du fait que ce soit en Arabie Saoudite ? On sait que, historiquement, c'était en Afrique, le Dakar, et que ça a été délocalisé d'abord en Amérique du Sud, après en Amérique du Sud. Qu'est-ce que ça te dit, toi, de ce Dakar ? Est-ce que ça perd un peu de son prestige ? Le fait que ce soit en Arabie Saoudite.
Pour moi, si c'était la seule compétition qui se délocaliserait en Arabie Saoudite, oui, mais vu la tendance actuelle du sport, je pense pas. Quand on a la Coupe du Monde au Qatar, la Super Coupe d'Espagne actuellement qui se joue en Arabie Saoudite, je pense que c'est plutôt une habitude qu'on prend. Après, ça va, parce que c'est pas non plus comme des JO d'Asie d'hiver qui jouent en Arabie Saoudite. Quoi. Là, le climat saoudi, le climat, les dénivelés, le relief est fait pour jouer ce Dakar. Moi, ça me pose pas de problème. Alors après, pourquoi il était plus en Afrique ? C'est à cause des menaces terroristes et aussi des pillages là-bas. Donc, de toute façon, pour moi, tant que la sécurité des pilotes est garantie, c'est tout ce qu'il vaut. Donc bon, après, entre l'Amérique du Sud et l'Arabie Saoudite, moi, je vois pas trop de différence. Et je pense que bon, au bout d'un moment, même si on peut poser des coups de gueule géopolitiques, parler du pétrole, machin, bon. C'est une habitude qu'on commence à prendre avec le sport.
C'est vrai, et ça va être la tendance dans les années à venir. T'as parlé du Qatar, de la Coupe du Monde au Qatar foot, on va rester dans le foot avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, si on peut dire, à la mi-saison, dans les 5 grands championnats français. Alors Arnaud, toi, quelles ont été tes surprises cette année ? Cette demi-saison, pardon.
Ouais, alors moi, pour la première partie de saison, j'ai beaucoup aimé une équipe, en particulier en Espagne. Je pense que ça va surprendre aucun suiveur du football espagnol. Mais c'est Girona, actuel co-leader du championnat espagnol avec le Real de Madrid. 48 points en une demi-saison, c'est vraiment un très beau score pour Girona. Alors j'adore l'équipe et la manière de jouer, l'effectif est vraiment bien construit, cet été ils ont fait vraiment un très bon mercato, Girona, ils ont réussi tous leurs coups, il n'y a aucun échec de transfert, ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent, ils ont marché avec des recrues libres comme Dali Blind, l'ancien qui est venu là du Bayern, des prêts comme le prêt d'Eric Garcia au Barça. Eric Garcia qui jouait pas du tout au Barça, qui là est titulaire et qui vraiment joue pas mal. Artem Dovbyk qui a été recruté en Ukraine pour 7 millions d'euros, qui a pu s'imposer dans l'effectif et qui maintenant est titulaire. Non, voilà, je pense que Girona a donné une leçon de mercato estival à tous les clubs. Et oui, cet effectif, il marche très bien. Après, on peut parler du fait que ce soit le City Group. Moi, je pense que ça y contribue beaucoup. N'importe quelle équipe ne peut pas faire ce qu'a fait Girona. Bien sûr, on voit les bienfaits du City Group. Dans cet effectif, il y a Yangel Herrera qui vient de Manchester City, qui a joué aussi au New York City. Bon, c'est le troisième club du City Group qui fait Yangel Herrera, mais il réussit enfin à exploser en Mondiovision. On a Savio, le très jeune ailier qui est vraiment énorme. Tous les suiveurs du football mondial pourront vous dire que Savio est énorme. Sauf que Savio, il appartient à Troyes. Troyes en France, qui appartient aussi à Manchester City. Savio a été acheté par Troyes, c'est le plus gros transfert de Troyes, sauf qu'il n'a jamais joué à Troyes. Il n'a pas joué une minute sous le maillot troyen. Et on parle du fait que l'année prochaine, il pourrait être rapatrié par Manchester City pour jouer en Première Ligue. Bon, on voit aussi les défauts de la multipropriété, avec l'utilisation de Troyes juste pour acheter des joueurs pour Girona et City, mais bon. Après, quand on s'y fait, c'est pareil, ça pose moins de problèmes. Là, je vais vous parler de l'aspect tactique, parce que moi, c'est ça qui me fait kiffer avec eux. Leur défense d'Alim Lind, Eric Garcia, Lopez, qui a coûté 0 euros, que des recrues libres ou des prêts. Bon, il y a un petit déficit de vitesse, mais leur rapport à la relance et à la construction, elle est folle. Les pistons, Mikel Gutiérrez et Yann Couteau, ils jouent comme des ailiers. Yann Couteau, d'ailleurs, qui appartient aussi à Manchester City. Et les deux sont géniaux, ils sont jeunes, je pense que c'est vraiment, ils peuvent être considérés comme l'avenir au poste de piston. Au milieu de terrain, on a les fantastiques Yangel Herrera, Aleix Garcia et Iban Martin qui savent tout faire, c'est des génies. Ils défendent, ils se replacent, ils peuvent tirer, ils peuvent marquer, ils sont décisifs en défense, en attaque. C'est vraiment un trio de milieu que j'adore. Devant, bah, y a le trio qui joue souvent Tsigankov, Dovbyk et Savio. C'est l'archétype de l'attaque moderne. De toute façon, Girona, c'est aussi une attaque moderne avec cette défense à 3 et ce style de jeu léché dans la relance. Mais cette attaque avec un grand bazar, pardonnez-moi l'expression, mais Dovbyk, malgré son grand gabarit, on peut considérer que c'est un peu comme Haaland, quoi. C'est un joueur qui balle au pied rassurant et qui est aussi un superbe finisseur. Tsigankov, lui, joue haut, il joue vraiment derrière Dovbyk. Et la doublette ukrainienne s'entend super bien, ils sont amis dans la vraie vie, moi j'adore ce duo. Seulement 5 millions d'euros déboursés pour recruter Tsigankov il y a un an et demi, je sais pas comment ils ont fait à l'époque pour l'avoir que pour 5 millions d'euros, mais c'est vraiment un super coup, parce que n'importe quel autre club en aurait payé 30 pour un joueur de ce calibre. Et Savio, bah, c'est la révélation de ce début de saison, l'effectif global... Dans l'effectif global, tous les joueurs trouvent leur place, et même sur le banc des remplaçants, des Portu ou Stuani, qui sont vieux, trouvent leur place et justement ils sont ménagés pour pouvoir jouer de manière récurrente sur des fins de match et être à leur top. Des excellents jeunes, il y en a à foison, l'avenir est vraiment assuré, comme le jeune Pablo Torre prêté par le Barça qui arrive à jouer sur ses derniers matchs grâce à la blessure de Yangel Herrera et qui vraiment est top. Et tout le banc avec les John Solis, Valeri, Arnaud Martinez, ouais, ils sont excellents. Donc c'est pas très original ce coup de cœur, mais il y en a pas mal des choses à dire sur ce Girona.
Ouais, t'as oublié quand même de souligner le très bon travail du coach Michel aussi quand même.
Ouais, Michel qui... Alors j'ai vu un classement de Sky Sports Angleterre, bon ça a la valeur que ça, mais eux ils faisaient aussi leur top 5 des coachs sur cette année 2023, et Michel ressortait, c'est dire le grand travail de ce coach qui arrive à insuffler une belle idéologie à l'équipe, c'est ça.
Moi, on espère que ça va se poursuivre et un peu qu'il y ait une histoire à la Leicester en 2016 qui soit champion. Ça serait complètement incroyable en Liga, surtout qu'ils n'étaient pas entendus en début de saison. Comme surprise, t'as qui d'autre?
Alors en Ligue 1, je n'ai pas trop trouvé, mais là j'ai l'Olympique de Marseille qui me plaît bien sur les derniers matchs. J'aime bien leur manière de jouer aussi. Alors bon, ils seront pas mal handicapés par la CAN qui arrive. 7 joueurs qui partent à la CAN, dont des mecs qui sont titulaires récurremment. Des Chancel Mbemba, Unai, Harit, Ilimandia, Ismail Assar. C'est vraiment des joueurs qui font des différences à Marseille et qui vont manquer. Mais sur ces derniers matchs, moi j'ai bien aimé Marseille et comment ils ont su se reprendre aussi, parce que en début de saison, on leur est tombé dessus et à raison avec ce 4-4-2 qui marchait pas vraiment. Mais là, sur ces derniers matchs, j'aime bien Amir Murillo qui prend du temps de jeu à gauche, à droite, où il peut jouer, il est bon. J'aime bien cette attaque, alors il y a un petit déficit à la finition. On le voit, ils sous-performent vraiment des occasions qui pourraient leur permettre de gagner des matchs et qu'ils n'arrivent pas à transformer. Les Vitinha et Aubameyang, on a vu qu'ils pouvaient jouer les deux ensemble et j'espère qu'ils arriveront à scorer de manière plus récurrente, parce que moi, c'est deux joueurs que j'aime bien. Et voilà, je leur souhaite de remonter à Marseille, parce que c'est une belle équipe cette année. Ouais, et puis restons en Ligue 1. Toi, tu m'as parlé de Brest tout à l'heure. T'aimais bien Brest?
Ouais, Brest, c'est vraiment l'équipe surprise. Alors, j'irai pas jusqu'à l'équipe frisson de ce début de championnat, mais c'est vraiment l'équipe surprise. L'an dernier, ils se sont sauvés in extremis, grâce notamment à l'arrivée d'Éric Roy, un coach assez ancien de l'école ancienne. Personne ne croyait tellement en lui, mais son discours a su fédérer tout un effectif qui a su se maintenir. Cette année, c'est dans la continuité. Peu de joueurs ont bougé à Brest, sauf Franck Honora qui est parti en Allemagne à Mönchengladbach. Donc, c'est une équipe qui se connaît. Donc, dans la continuité, on fait confiance toujours à Éric Roy. Et c'est une équipe qui pointe à la quatrième place du championnat. Si on en reste à l'heure actuelle, Brest serait qualifié pour la nouvelle formule de la Ligue des Champions l'an dernier. Alors Brest, qu'est-ce que c'est? Brest, c'est un bloc solide avec un goal assez bon, il faut le reconnaître, l'un des meilleurs de notre championnat, Marco Bizot. Il y a une défense aussi assez solide avec notamment comme capitaine Brendan Chardonnay. Et puis des joueurs devant qui sont un peu électrons libres, qu'on leur laisse un peu tout faire. Je pense à notamment Del Castillo ou encore Le Doiron. C'est une équipe, j'espère, va pouvoir prolonger sa bonne forme en 2024 et pourquoi pas les voir en Europe l'année prochaine, en Ligue Europa Conférence. Ça serait une bonne récompense pour Brest qui fait du bon boulot en ce début d'année.
Ce serait le frisson, Brest en Europe. Et oui, c'est vrai que comme indicateur de la très bonne gestion du club, on parle en ce moment du nouveau stade de Brest. Et Brest qui ne fait pas l'erreur de beaucoup d'autres clubs et qui vont construire un stade d'à peu près 20 000, 25 000 places, de ce que j'ai
Ouais,
vu.
c'est ça,
Ouais, un peu plus grand que le stade Francis Leblay, mais qui ne sera pas non plus démesuré, qui ne sera pas non plus avec des sièges libres. Voilà, ça promet.
Ouais, ça montre la volonté du club de grandir, quoi. S'installer, pourquoi pas, comme une place forte, entre guillemets, du foot français, et pas jouer chaque année ric-rac le maintien et se sauver dans les deux dernières journées, quoi.
Exactement, grandir avec un gros stade qui sera toujours assurément plein.
Ah oui, là-bas,
Ça,
c'est une terre de football, la Bretagne.
c'est une belle ambiance à Brest. Bon, on va se dépayser un petit peu. Tu nous as parlé tout à l'heure du Giro, du départ du Tour de France d'Italie aussi. Toi, tu m'as parlé aussi du Bologne, de Thiago Motta, qui t'a bien fait plaisir en ce début de saison.
Ouais, alors j'ai pas vu grand nombre de matchs, mais les peu que j'ai vus, c'est que c'est vraiment une équipe portée vers l'avant. Alors tu l'as dit, il y a Thiago Motta comme coach. Il était notamment cité l'an dernier, l'été passé, pour pouvoir être sur le banc au PSG. Donc c'est une équipe qui va vers l'avant, qui joue, qui n'a pas peur de se découvrir, quoi. C'est souvent du 1 contre 1 derrière et ça fait confiance à l'attaque. Alors je peux vous citer Zirkzee qui a mis pas mal de buts cette année. Mais il y a aussi des joueurs d'expérience au milieu comme Salmakers ou Ronan Freuler. Bref, c'est une équipe qui est cinquième de Serie A. Et pourquoi pas aller voir titiller les grosses armadas de la Serie A et pourquoi pas jouer l'Europe en fin de saison.
Ouais, moi j'aime vraiment pas mal Zirkzee là sur ce début de saison. À chaque fois ses buts, ses contrôles orientés, c'est vraiment léché.
Ouais, c'est le foot quoi, c'est un bon joueur de foot, ouais.
Ah, ça fait plaisir.
Tu veux parler de tes coups de gueule, de tes déceptions, entre guillemets?
Ouais, moi j'ai un peu de mal avec le coup de gueule, parce que bon, c'est des professionnels, nous on est assis sur la chaise, donc
Ah ouais.
j'ai pas prendre l'audace de leur mettre des coups de gueule, mais plutôt des réconforts. Voilà, la petite soufflante de la mi-temps pour réconforter l'équipe et la remettre sous tension pour la deuxième partie de saison. Alors bah déjà j'ai Brentford qui a très très bien démarré l'année. Vraiment au début de saison j'ai très bien aimé le Brentford avec les attaquants Wissa et Mbeumo, mais Mbeumo est blessé, Wissa part à la canne, et cette attaque elle est un peu un peu déserte en ce moment. On a le retour de Lewis Potter, mais bon, c'est pas ça non plus. Ils enchaînent une bonne série de matchs sans victoire. Là, je sais plus à quand remonte leur dernière victoire, mais déjà sur les 5 derniers matchs, mais c'est 5 défaites, Brentford. Le milieu est bon, le milieu Janelt, Norgaard et Jensen, là c'est... Moi j'aime bien, c'est du milieu qui a du ballon, qui fait avancer l'équipe. Mais voilà, il va falloir trouver des solutions offensivement. On va avoir le retour d'Ivan Toney en février. Ouais. Ivan Toney qui était suspendu pour des affaires de Paris Sportif. Et oui, après les petits Mikkel Damsgaard ou Neil Mopé qui va peut-être pouvoir revenir et reprendre du temps de jeu avec Brentford, mais bon. Va falloir faire quelque chose à Brentford, peut-être recruter quelqu'un en attaque, parce que là, il va falloir se remettre d'aplomb. Parce qu'ils sont pas loin de la zone relégable, hein, Brentford, ils sont à 4 points seulement de Luton Town. Parce que derrière, les clubs de Premier League, ils se laissent pas faire. Luton Town, ça peut gratter des points contre n'importe qui. Burnley, au fur et à mesure des matchs, on voit qu'ils comprennent leur effectif, ils comprennent la tactique à mettre en place pour la Premier League, et ça se fait. Donc voilà, va pas falloir se faire peur à Brentford et se reprendre vite fait. Et après, mon autre réconfort, c'est pour le Barça. Bon, moi, je vais pas me cacher, de toute façon, vous allez le savoir. Moi, je suis un fan du Barça, donc c'est mon club de cœur. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de les remettre d'aplomb. Mais franchement, moi, je comprends pas. Quand je vois le jeu de Xavi, ne serait-ce qu'il y a un an, et le jeu maintenant, il n'y a plus rien à voir. J'ai même pas envie de tomber sur Xavi, parce que c'est facile, c'est l'entraîneur, mais il n'y a plus d'implication dans les joueurs. On voit des fois, il y a des passes qui ne se comprennent pas. Là, on s'est fait peur en coupe face à Barbastro, club de 4e division, je crois. 3-2. C'était compliqué, quoi. Et moi, ça ne me plaît pas trop, la mentalité actuellement. Je l'ai vu il y a quelques temps qu'on a demandé à Xavi pourquoi est-ce qu'on n'avait pas gagné un match par plus d'un but d'écart depuis septembre. Et puis septembre, les gars, ils n'ont pas gagné un match avec deux buts d'écart ou plus, quoi. Et lui, il a dit non, mais ce qui m'importe, c'est le résultat. Alors oui, c'est bien, mais en même temps, tu perds des matchs, tu perds des points en Liga, tu perds des matchs, tu perds la Champions League. Alors là, ils sont premiers, mais ils ont de la chance vraiment de tomber face au Napoli, parce que ce qu'on a vu face à Antwerp, c'était pas rassurant du tout. Là, face au Napoli, ça va être deux équipes en perdition totale. Ça va être assez marrant comme affiche de 8e de finale, je pense, à l'extérieur. Nous, on va serrer les fesses, on va espérer un retour de cet effectif. Et surtout, oui, puisqu'il n'y a que des joueurs de talent. Les blessures. Il y a les blessures de Pedri qui va revenir. On n'a plus Gavi jusqu'à la fin de la saison, mais bon.
C'est ça qui est rageant, en fait. C'est que tu as du matos à Barcelone et au final, c'est vraiment... c'est pas foufou, quoi, ce qui est proposé. Mais bon, on verra bien ce que 2024 nous réserve pour les Blaugrana.
Ouais, et aussi j'ai oublié de vous parler de Liverpool, un énorme coup de cœur, parce que bon, c'est... À la base, je comptais vous parler d'Aston Villa, deuxième du championnat, mais en fin de compte, c'est Liverpool, premier du championnat, qui moi m'impressionne le plus, parce que Liverpool, je les voyais pas du tout à ce niveau en début de saison. Je pensais qu'ils allaient jouer l'Europe, peut-être faire le même classement que l'année dernière. Surtout que voilà, ils ont perdu Fabinho, ils n'ont pas trouvé de 6 à cette stature. En attaque, on avait toujours les hésitations, Núñez, Gakpo, Jota, Diaz qui doit jouer et tout. Et là vraiment, ils sont premiers du championnat avec assez d'avance sur le reste. Ils ont 3 points d'avance sur Aston Villa, 5 points d'avance sur les Manchester City et Arsenal. Et ils ont trouvé leur voie, Liverpool. Le seul souci en ce moment, c'est au niveau des latéraux. Les blessures de Robertson, Tsimikas qui s'est aussi blessé, Alexander-Arnold qui s'est aussi blessé, alors qu'en ce début de saison, Alexander-Arnold, il montrait enfin tout le talent qu'il avait. Franchement, la personne qui fait des reproches à Alexander-Arnold sur ce début de saison, je pense qu'il n'est pas très honnête, parce qu'on connaît son profil, on connaît son apport. Et moi, j'ai adoré Alexander-Arnold en ce début de saison. Donc voilà, on a aussi les problèmes en défense centrale avec la blessure de Matip. Konaté qui a intérêt à pas se blesser, parce que sinon cet effectif va être un peu à la peine en défense. Mais voilà, le milieu marche très bien. Endo enchaîne les titularisations en poste de 6, donc c'est rassurant. Dominique Szoboszlai est énorme.
Très bonne recrue.
Dominique Szoboszlai est sûrement la meilleure recrue de cet été. 70 millions, mais il confirme tout le potentiel qu'il montrait. L'intégration de cet effectif est top. Mohamed Salah montre qu'il en a encore sous la pédale et que c'est encore l'un des meilleurs ailiers du monde. Alors il part à la CAN, oui, mais derrière il y a du monde aussi. Il y a Harvey Elliott qui peut très bien faire le taf. Donc voilà, moi j'aime pas mal cette équipe de Liverpool.
Ouais, puis c'est Klopp quoi. Enfin, ce mec-là, il est depuis je sais pas combien de temps à Liverpool. Chaque année, on pense que le cycle, c'est une équipe en fin de cycle, qu'il va pas arriver à se renouveler. Et ben, il nous surprend lui aussi. Et il faut dire que je suis assez fan de ce coach-là.
C'est la stabilité.
La stabilité, ouais, bah oui, comme tu dis, quoi. C'est de plus en plus rare dans le foot moderne.
Et il me semble qu'il reste qu'une équipe à traiter. Il nous reste le Toulouse FC, non?
Ouais, bah là, tu parlais de stabilité. Moi aussi, je suis fan du TEF, donc on a viré le coach qui nous a permis de remonter en Ligue 2, qui nous a fait gagner la Coupe de France, Philippe Montagnier. Donc bon.
Remonter en Ligue 1.
Monter en Ligue 1,
Ouais,
oui, monter en Ligue 1, oui, pardon.
sans pas descendre bien national quand
Non,
même.
c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est Carles Martinez Novel qui l'a remplacé. C'était l'adjoint de Philippe Montagnier. Bon, on peut se dire que c'est un choix qui peut se justifier. Mais ce qu'on n'a pas compris, nous, supporters, c'est la non-prolongation de contrat du milieu du Benelux qu'on avait, qui nous remplissait de bonheur. Genre, Vandenboomen, Spierings, et bien sûr le capitaine De Jager. Au rayon des non-prolongations de contrat, on peut ajouter aussi le goal titulaire, Maxime Dupé, de l'an passé, et Rhys Illy, le fameux Rhys Illy. Donc au-delà de ça, on pensait que le club et le président Comolli allaient recruter de bons joueurs. Alors je dis pas qu'ils sont mauvais, mais ils sont pas aussi bons que les autres. Et c'est vrai que leur intégration, je pense à des Vincent Sierro, à des Caceres, des Niklas Schmidt, elle est difficile pour l'instant. Alors, faut pas oublier que le club joue sur deux, voire trois tableaux maintenant avec la Coupe de France. On a été qualifié en Ligue Europa. Il faut savoir qu'on a gagné plus de matchs en Ligue Europa en 6 matchs qu'en 17 matchs de championnat. Ça montre dans quel état on est, nous supporters, à la mi-saison. Alors, il y a eu cette belle perf contre Liverpool, on s'en souvient tous. Mais des matchs plus désastreux au stadium, où on s'est égalisé dans les arrêts de jeu, voire même où on perd. Alors, je pense au Havre, je pense à Lorient. Bref, une des satisfactions, c'est l'émergence de nouveaux pitchouns, des jeunes du centre de formation, comme c'est dans l'ADN du club. Et là, je pense à Guillaume Rest, gardien prometteur, qui est vice-capitaine de l'équipe de France Espoir. C'est un profil atypique dans le foot moderne. Il est très bon, très très bon au pied. Il n'est pas si grand que ça, il fait pas 2 mètres, il est aux alentours des 1,85, 1,90. Donc c'est un très bon joueur qui nous a permis de sauver pas mal de points. Donc quand tu penses qu'on est à 14-15 points, sans lui, je pense qu'on aurait été bien plus bas. Donc c'était un peu mon coup de.
Et puis le manque de stabilité offensive, parce qu'avec la blessure de Aboukhlal et le départ de Shaibi, enfin Shaibi qui est énorme en Allemagne avec Francfort, ouais,
Ouais,
ça
ben
joue
là,
au fin de compte.
ouais, heureusement qu'il y a Dalinga encore en pointe qui met ses pions à chaque match, mais c'est vrai que bon, t'as Magri, t'as de l'autre côté, t'as.
Bah déjà Magri qui part à la CAN, hein.
Ouais, il y a Magri qui part à la canne. Et on peut s'étonner aussi du choix de Carles Martinez Novel de pas donner plus de temps de jeu à des pitchouns en attaque comme Mamadi Mangré, qui est virevoltant sur son côté. Mais bon, ça, c'est des choix que nous, on constate sur notre canapé les week-ends, mais qui sont sûrement et qui même doivent être justifiés au regard du travail quotidien à l'entraînement, notamment.
Bah ouais, vous avez pas mal parlé de football. Là, on va essayer de vous contenter, mes amis palois, parce qu'on va finir par le récap palois. Voilà, avec Baptiste qui va nous présenter les dernières actualités pour vous mettre à jour sur le sport à Pau. Comment ça se passe, Baptiste?
Oui, bah on va commencer comme on était dans le foot avec le Pau FC. Donc pour le premier match de l'année 2024, les Palois recevaient les Nantais, donc Nantes, pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France au Nouste Camp. Après avoir mené au score suite à un but de Moussa Sylla dès la 15e minute de jeu, les pensionnaires de Ligue 2 se sont écroulés en seconde mi-temps en concédant 3 buts dans les 10 dernières minutes, notamment un doublé de Tino Kadewere. Recrue hivernale de Lyon qui ne jouait pas à Lyon et qui ne performait pas à Lyon et semble être pour l'instant une bonne pioche pour les Nantais. Samedi 13 janvier, c'est un déplacement à Rodez qui attend les hommes de Nicolas Ouzaï. Une victoire en terre ruthénoise permettrait aux joueurs de la cité paloise de reprendre sa marche en avant en championnat et recoller au wagon de tête. Et pourquoi pas ne pas arriver à disputer la montée en fin de saison. Qui sait, le Pau FC en Ligue 1. On poursuit avec le Bilher Handball qui s'est donné de l'air au classement. en remportant ses 4 derniers matchs du mois de décembre, avec des succès probants à l'extérieur à Celesta ou à Massy. Voilà les joueurs de Billard 8e au classement, à 3 points de la 6e place qualificative pour les playoffs. Reprise du championnat le 2 février, avec un déplacement à Nancy, qui est 6e au classement. Donc une grosse affiche. On enchaîne avec la section paloise, qui a eu du mal à digérer les fêtes de fin d'année. Alors il y a eu une victoire contre l'ASM avant Noël, une lourde défaite entre les deux fêtes lors du Boxing Day à Oyonnax, et une défaite à la maison à La Rochelle pour le premier match de 2024. Malgré cela, la section reste dans le top 6, je vous rappelle le top 6, qualifiable pour les barrages en fin de saison. Ce week-end, ce seront les Italiens des Zèbres qui viendront à Meaux pour le compte de la 3e journée de Challenge Cup, avant un nouveau déplacement en Afrique du Sud pour y affronter les Cheetahs. Fin janvier, c'est une période cruciale pour les Palois s'ils veulent continuer de croire à leur chance de qualification et de jouer le Brennus en fin de saison, avec les fameux matchs de doublon, une des caractéristiques du top 14. La section va jouer le Stade Toulousain, Toulon et le Racing, des clubs qui vont être impactés par le départ des internationaux français.
Et puis surtout, Pau qui là, a vu les débuts de Sam Whitelock, qui est enfin arrivé de Nouvelle-Zélande, qui a repris le jeu. Moi, j'ai trouvé énorme Sam Whitelock là, sur les deux derniers matchs. Il a joué en 4 avec Capelli là, sur le dernier match. Et voilà, énorme dans l'activité, dans le combat.
C'est un leader de jeu, quoi. Enfin, quand tu le vois, c'était contre La Rochelle. Le mec, il plaque, il va au mastic. Il n'a pas peur de mettre les mains. Enfin, tu sens que c'est un vrai leader de touche aussi. Et que ce mec-là, ça va être vraiment un plus pour la section paloise, quoi.
Ouais, c'est cruel pour Hugo Radu qui était super en début de saison, mais bon.
Ouais, après, dans la rotation, ben voilà, lui aussi va apprendre. T'as Whitelock à tes côtés toute la saison, tu vas plus apprendre que si tu joues aussi. On continue dans le rugby, donc à noter que les féminines de l'once section paloise n'ont toujours pas gagné de match suite à sa défaite avant Noël à Grenoble et sont donc malheureusement toujours dernières au classement. Et on va finir avec l'Élan Béarnais qui connaît une période assez difficile. Là aussi, les fêtes ont été indigestes pour les Palois. 3 défaites sur les 3 derniers matchs. 2 défaites au Palais des Sports face au dernier Antibes. Quand même, Antibes était sur 8 défaites consécutives, toutes compétitions consécutives donc. Et une défaite de 21 points, celle-là a dû faire mal à la tête avant Noël. Il y a eu la défaite aussi face à Rouen à la maison, qui est un candidat à la montée. Et une défaite à Boulazac, loin de ses bases, donc loin du... Enfin, loin, pas si loin que ça. À l'extérieur donc pour le Boxing Day. Une période des fêtes clairement à oublier pour les Béarnais. Néanmoins, tout n'est pas perdu. Ces derniers, les Béarnais, pointent à la 8e place du classement et restent qualifiables pour les playoffs de fin de saison. Des contre-performances à ne pas reproduire en 2024 s'ils veulent encore croire à leur remontée dans l'élite du basket français. Ce week-end, c'est à Évreux que les Palois lanceront leur année 2024 et... 2024 aussi, ça va être la suite de la Coupe de France. Hier, donc mercredi 10 janvier, a eu lieu le tirage au sort pour les 8e de finale de la Coupe de France. Et c'est un déplacement à Calais pour Pau, qui affrontera Gravelines-Dunkerque. On vous rappelle que malheureusement, le club de Gravelines-Dunkerque a perdu toutes ses installations dans un incendie le jour de Noël. Donc ça sera un déplacement à Calais.
Ouais, et bien merci beaucoup pour ces dernières informations paloises. Ça a été un peu plus long que la première émission. Voilà, on essaye de trouver le rythme pour la longueur. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes restés captivés, qu'on a su attiser votre appétit de sport. Et je te remercie, Baptiste.
Ouais, merci Arnaud, merci à tous et à une prochaine émission.
Ouais. Allez, bisous à tout le monde.